par Éric Maigret de l'Université Sorbonne Nouvelle, laboratoire CIM, équipe MCPN, avec pour titre « Quel est le noyau rationnel du populisme de droite ?»
Merci Nelly. Je remercie Maxime évidemment pour l'invitation. Je souhaite remercier aussi Isabelle Bastien Duplex qui a organisé déjà beaucoup d'événements ici à Beaubourg autour des Cultural Studies. Je me souviens qu'à 7 ou 8 ans, ce n'était pas aussi facile d'en discuter qu'aujourd'hui. Alors, pour moi, à l'issue d'assez nombreuses batailles en France pour rendre possible une parole sur les cultural studies, venant des cultural studies, il me semble que la différence entre cultural studies et critique marxiste est évidente. Elle est évidente à l'issue d'un parcours où il a fallu la rendre évidente. Alors, par différence avec peut-être des travaux adorniens, mais des travaux aussi bourdieusiens qui sont parfois plus complexes sur ces questions. Donc, pour faire simple, à titre d'entame, je dirais que la critique, notamment marxiste, a été ou se présente comme une volonté de libération radicale, c'est ce que vient de dire Franck. C'est une pensée, un affect de la crise qui est vécue comme une unité fonctionnelle, voilà, qui serait facilement articulable et dénonçable, et dont il suffirait d'inverser les prémices pour que l'on soit libéré des oppressions vécues. Les cultural studies sont, à mon sens, beaucoup plus complexes, parce qu'elles proposent une pensée des crises, d'ailleurs au pluriel, donc comme multiplicité, elles sont plus inclusives dans la mouvance des personnes intellectuelles ou hors académiques qu'elles incluent. Donc, elles produisent une contestation qui est à la fois plus modeste intellectuellement, mais plus radicale. Et c'est à ce titre, je pense, qu'il y a une divergence, même s'il y a des choses communes et si des alliances conjoncturelles, notamment, sont tout à fait possibles et tout à fait souhaitables même, surtout en temps de crise forte, au sens gramscien du terme. M. Arthur lui-même l'a dit régulièrement, la théorie critique est une vision extrême qui est utile en des temps extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'elle est la vérité de la situation, mais qu'elle est utile pour que l'on se rallie peut-être en certains moments, certains temps, à un front commun. Alors, les cultural studies sont donc un élan ou une puissance de contestation fondamentalement antifondamentale, en même temps qu'elles proposent une construction, un ensemble d'alternatives dans un contexte non élitiste ou qui en tout cas ne devrait pas être un contexte élitiste. Alors j'en viens à la question du populisme, mais d'abord à la question du populaire. Donc je ne vais pas intervenir sur le divertissement, pour une fois, c'est plutôt là-dessus que j'ai travaillé historiquement, mais au champ politique. Je pense que dans les cultural studies, comme le dit Hall, mais comme le dit aussi F. Sedgwick, ce qui est recherché prioritairement, c'est d'éviter de dire ce que les chercheurs pensent de la vérité du monde populaire, donc d'éviter de dire aux gens ce qu'ils devraient ressentir et vivre, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que les gens vivent et ce qu'ils ressentent, saisir leurs idéologies, leurs affects, pour ensuite pouvoir contribuer à les changer si c'est nécessaire, si ça fait sens, s'il y a oppression, s'il y a violence. Donc on ne change véritablement, on ne défait les alliances conjoncturelles qu'en les comprenant et non pas simplement en les exécrant. Alors c'est pour cette raison que Stuart Hall s'est toujours présenté comme un penseur non pas de la totalité, c'est-à-dire d'un tout fonctionnel que l'on pourrait comprendre, mais bien comme un penseur total, c'est-à-dire comme un penseur engagé, engageant sa vie, ou une partie de sa vie en tout cas, car il n'a pas tout rendu public, il n'a pas engagé entièrement son existence, nous avons le droit à une vie intime, privée. À travers un historicisme, je reprends un mot qu'il a employé à la fin de son existence, c'est-à-dire une saisie à travers le temps, à travers la construction historique véritablement des enjeux de pouvoir. Donc le but des cultural studies pour lui, c'était de saisir l'hétérogénéité pour déplacer, défaire, comme le dirait plutôt Butler, des agencements et contribuer à les refaire. Alors, pour aboutir à quoi ? Non pas pour aboutir à une libération radicale, parce qu'on n'échappe pas au pouvoir simplement, mais pour rendre le monde vivable, ce qui est déjà énorme. Alors, à mon sens, il y a trois Stuart Hall face à la question du marxisme. Il y a le premier qui a été décrit par Gregor MacLennan hier, celui des années 60-70, qui a un rapport assez intime au marxisme. Hein, il en vient, d'une certaine façon. Celui des années 80 à 2000, où Hall va solidifier un corpus théorique qui inclut un dialogue avec le marxisme, mais dans un rapport contre le marxisme essentiellement, alors je dirais presque, en reprenant la phrase de Godard, contre le marxisme tout contre, c'est-à-dire en partageant quand même une intimité avec ce marxisme, parce qu'on ne peut pas éviter de se référer à la question des structures sociales, mais on ne peut pas se laisser piéger par la question des structures sociales. Alors Hall, dans ce rapport au marxisme, va toujours déclarer quelque chose de très net, c'est qu'il existe un problème intrinsèque avec le marxisme, hein, je le cite, intrinsèque et non extrinsèque, hein, qui arriverait par accident, si vous voulez, c'est le déterminisme économique, ou ce qu'il appelle l'économisme. Et le fait que ce marxisme aboutit régulièrement à une protestation de principe, là où d'autres peuvent peut-être, selon lui en tout cas, se donner les moyens d'aboutir à défaire, reconstruire les agencements. Enfin, il y a un troisième Stuart Hall sur la question du marxisme, pour moi. C'est celui qui va travailler dans ses derniers textes. Alors, je les ai analysés récemment, notamment grâce à Franck, pour un ouvrage collectif sur Stuart Hall. Sur le néolibéralisme, grand texte de 2011, La révolution néolibérale, et puis un ensemble d'interviews qu'il a pu donner juste avant sa mort, et des textes sur l'histoire du mouvement des Cultural Studies, où il semble opérer un rapprochement que je pense en partie tactique, en réalité, avec les mouvements marxistes et néo-marxistes, en appelant justement une généralisation de l'expression néolibéralisme. Là où Stuart Hall s'est toujours interdit de confondre, justement, de mélanger ce que l'on regroupe habituellement à travers cette vaste expression de libéralisme et de néolibéralisme. Hein, pour lui, les tensions historiques, les diversités de conjonctures nationales, géographiques, font qu'il n'est pas possible de parler d'un néolibéralisme simple et mondial. Il dira d'ailleurs, je parle d'abord et avant tout du thatcherisme britannique, mais j'observe quand même son évolution par cercle concentrique et sa diffusion dans le monde. En tout cas, chez Hall, donc, dans ses derniers textes, il y a une volonté de rapprochement, d'évoquer un néolibéralisme comme quelque chose de relativement intenable. Et je pense qu'il commence à y avoir des formes de consensus dans le monde académique critique, quelles que soient ses formes. Là où, par ailleurs, il écrit régulièrement qu'il ne renoncera pas à l'analyse de la conjoncture, qu'il ne croit pas en l'analyse structurale du capitalisme. Donc, il compose, en fait, il ouvre la porte à des formes d'alliances théoriques et sur le terrain, puisqu'il énumère tout un ensemble de mouvements protestataires qu'on a pu évoquer cet après-midi, ce matin, dans les autres jours, tout en déplorant l'incapacité de la gauche au gouvernement et la gauche à travers les différents mouvements académiques et les mouvements dans la rue, l'incapacité de se rassembler et de provoquer, de mettre en place des compromis. Alors, la volonté de comprendre le populaire est au cœur donc, des cultural studies, dans le divertissement, mais aussi dans le champ politique. Donc, Hall proposait, dès les années 80, à travers l'identification du mouvement thatcherien, idéologique, de saisir son rapport au populaire. Il faut faire, dans le champ politique, ce qui a été fait dans le champ du divertissement. Ne pas considérer que les gens vont voter pour Thatcher parce qu'ils seraient manipulés, trompés, hein, il écrit noir sur blanc, ils le sont par certains côtés, mais dans l'espace idéologique, pas dans un espace de manipulation mentale, rhétorique, publicitaire, ou simplement parce que certains propriétaires de médias abuseraient d'un certain nombre de messages. Donc il faut lutter contre le thatcherisme, et je dirais aujourd'hui, dans le prolongement de la pensée de Hall, qui lui-même va l'évoquer, lutter contre les populismes de droite, non pas en les versant dans un ensemble irrationnel, sans considérer qu'il y ait un consentement populaire à leur égard, mais bien aller vers ce consentement populaire et saisir les racines de ce consentement populaire pour mieux désarticuler ce consentement populaire, s'il est encore possible de le faire. Alors, de ce point de vue, Hall nous a proposé tout d'abord une analyse du thatcherisme dans les années 80, où il nous dit bien, le thatcherisme doit interroger la gauche dans ses fondements théoriques. Le thatcherisme nous donne un ensemble de leçons, hein, d'où le texte qui s'appelle « Les leçons de Thatcher ». Les leçons de Thatcher, c'est des choses assez abominables. Non, ce sont des leçons pour la gauche. Alors ça lui a valu beaucoup d'animosité, évidemment, au sein même de la gauche, et même parfois des cultural studies. Peut-on imaginer un Stuart Hall pro-Thatcher? Non, évidemment, c'est tout l'inverse. Le problème est, je le cite, « d'apprendre du thatcherisme pour mieux reconstruire ». Alors apprendre quoi exactement et reconstruire quoi? Le thatcherisme, nous dit-il, brise la gauche et les théories de gauche, et ça c'est moi qui le formule ainsi, non pas parce que c'est un corps unifié de pensée qui serait subtil et souhaitable, parce que c'est tout l'inverse, c'est un corps profondément hétérogène, grossier et assez détestable. Le thatchérisme nous donne des leçons, non pas par ailleurs parce qu'il agirait ou s'imposerait de façon déterministe, par des rapports de production, par une idéologie dominante, car c'est tout l'inverse. Il ne correspond pas au vécu de la plupart des gens. La plupart des gens ne souhaitent pas les conditions de travail qui sont vantées dans le cadre néolibéral. Regardez les sondages réguliers sur l'utilisation des open space en France, par exemple. Les gens sont massivement opposés à ça. Le thatchérisme ou le néolibéralisme ne correspond pas à la compréhension de l'économie de la plupart des personnes, ni même à leur représentation idéologique. Et pourtant, le thatchérisme a fonctionné, y compris du point de vue électoral en Grande-Bretagne, et puis il a pris des formes aux États-Unis jusqu'en France, qui sont soutenues pour partie, voire massivement, conjoncturellement, par des gens, par une majorité de la population parfois, parce qu'il prend en charge des affects et propose des solutions, nous dit Hall, à des questions ou à des problèmes qui ne sont pas évoqués ailleurs ou qui ne sont pas résolus ailleurs. Alors, quels sont-ils ? Je vais d'abord citer Stuart Hall sur la nécessité d'apprendre du thatchérisme. Hall nous dit, dans un texte de 1988, « Ce que les mouvements gauchistes et les honnêtes gens ne comprennent pas, à force de simplement exécrer le thatchérisme, c'est qu'il faut saisir le consentement populaire. La contestation n'est pas suffisante car elle est par nature négative. Le thatchérisme ne s'est pas contenté d'élaborer une critique du principe de l'étatisme, il a déployé une conception positive de la culture d'entreprise qui, malgré le scepticisme de la gauche, s'est enracinée à un degré surprenant. Cela montre qu'au-delà du battage politique, il y a là quelque chose qui, dans l'esprit populaire, entre parenthèses, et ça renvoie au titre de mon intervention, son noyau de rationalité, point d'interrogation, touche à des problèmes bien réels. Son noyau de rationalité, point d'interrogation. Évidemment, il est difficile de dire que le thatchérisme, puis aujourd'hui le populisme de droite, renvoie une rationalité extrêmement forte. On aura un petit peu de mal à accepter ça, mais il y a bien un noyau de rationalité, au moins à titre d'interrogation, comme peut l'exprimer Stuart Hall. En tout cas, cela touche à des problèmes bien réels. Et il donne un exemple, il n'est que de songer au relatif retard, entre guillemets, car c'est une construction historique et idéologique, de la Grande-Bretagne à ses médiocres performances comparées à d'autres pays capitalistes et à son traditionnalisme étouffant qui sont liés à l'une des cibles privilégiées de Mme Thatcher, le pouvoir des droits acquis. Donc, le néolibéralisme doit être compris, je dirais presque jusqu'à l'écœurement, comme une forme de réponse à quelque chose qui n'a pas été formulé et qui n'a pas bénéficié d'une réponse alternative à gauche. Donc Hall donne une liste des éléments, le traditionnalisme étouffant, sur le plan économique, mais sur le plan aussi des valeurs, le ralentissement économique, vivre un ralentissement économique fort, subir le chômage, est quelque chose qui induit un certain nombre de questions et qui amène un certain nombre de problèmes auxquels il faut répondre. La crise de l'État-providence, nous dit Stuart Hall, l'affirmation de l'individualisme, que la gauche n'a pas eu les moyens de récupérer, je dirais, dans sa boutique idéologique et à laisser place nette à la droite et en particulier au néolibéralisme pour qu'elle puisse, elle, se charger des affects et des idéologies afférentes à l'individualisme. Enfin, la diversification des identités. Et Dieu sait que la gauche, elle, est porteuse, normalement, d'une réponse culturelle et multiculturelle sur le terrain de la diversification des identités. Donc, que faire du populisme de droite aujourd'hui ? Comment l'analyser si l'on suit Stuart Hall ? Le populisme de droite, ou les populismes de droite, car il en existe une diversité, évidemment, il y en a au moins autant que de nations, peut être conçu à la fois comme un craquement de l'ancien monde, hein, au sens gramscien, le vieux monde se meurt, des monstres sont engendrés, puisque le neuf n'est pas encore advenu, et il est en même temps une sorte d'approfondissement de cet ancien monde, celui qui a été développé depuis les années 80 à travers le néolibéralisme, tout en étant une contradiction ou un recul ou une opposition fondamentale à ce néolibéralisme. Le néolibéralisme est en fragmentation actuellement et le populisme de droite représente une forme de réponse en même temps que de prolongement de ce néolibéralisme sans unité fonctionnelle avec ce dernier. Alors, je m'éloigne ici sur la question du populisme d'un auteur, ça a été dit ce matin, je crois, ou hier, qui a beaucoup influencé Stuart Hall, c'est Ernesto Laclau, sur la question de l'hégémonie, mais aussi sur la question du populisme. Laclau, que j'ai défendu par ailleurs, propose une analyse de la montée du populisme des populismes de droite ou de gauche. Il faut faire la différence entre les deux, toujours. Mais il les analyse en tout cas à travers une logique nominaliste d'agrégation des contestations autour d'un signifiant qui serait lâche. Il n'y a pas de fond véritable des populismes pour la CLAO, sauf à les orienter vers quelque chose de positif, si c'est un populisme de gauche qui serait porteur d'une réarticulation. Stuart Hall, dans les années 80 et puis 90, s'est détaché de la CLAO, qu'il a pourtant auparavant utilisé à travers le concept d'hégémonie, le concept gramscien, en signalant que cette vision nominaliste ne permettait pas de comprendre l'évolution du néolibéralisme ni l'évolution du populisme, qui repose bien sur un ensemble de raisons, de bonnes raisons parfois, de s'en revendiquer. Alors, quelle est cette raison ? La raison, évidemment, ce n'est pas la raison occidentale, une vérité intemporelle. Non, cela renvoie, je cite Hall, à des problèmes bien réels, que j'ai pu lister tout à l'heure, ou je le dis d'une autre façon, des expériences vécues et bien réelles. Une incapacité de vivre bien, des contradictions devenues insurmontables. Donc, les raisons, ce ne sont pas les raisons cartésiennes, évidemment, ce sont des raisons, en tout cas, de se rebeller contre des contradictions insupportables, tant sur le plan matériel que sur le plan idéologique. Et là, on voit en quoi des critiques, d'ailleurs, marxistes et cultural studies peuvent se retrouver et travailler ensemble. Alors, ces raisons, elles n'ont pas, hélas, été prises en charge ou reformulées par la gauche. Et donc, le dernier Hall, dans ses textes, dans ses interviews, dans ses écrits sur la révolution néolibérale, va expliquer que sa déception première, elle n'est pas à l'égard de la montée d'un populisme de droite, elle n'est pas à l'égard du néolibéralisme, mais bien à l'égard d'une gauche qui est incapable, tant la gauche de gouvernement que la gauche oppositionnelle, plus localiste, plus horizontal, si vous voulez, de produire des alternatives structurées, articulées. Les alternatives, elles existent. On peut donner une liste des arguments qui vont s'opposer, des promesses de lendemain, de penser autrement le monde aujourd'hui. Le problème, nous dit Hall, c'est que nous ne parviendrons pas à déconstruire non pas l'idéologie dominante, mais les visées hégémoniques articulées contemporaines, simplement en nous opposant par principe et en attendant qu'elle tombe. Nous devons fournir une alternative qui va nécessairement inclure un ensemble d'extrême gauche, une gauche de gouvernement, voire un centre et un centre droit. Vous avez peut-être remarqué qu'on en est très très loin, puisque déjà unir les extrêmes gauches et les rapprocher des gauches qui pourraient être des gauches de gouvernement, c'est encore le degré zéro aujourd'hui. Donc, en tout cas, Hall nous donne quelques pistes. Le libre choix, par exemple, qui est quelque chose qui a été porté au pinacle par le thatchérisme, le libre choix n'est pas quelque chose de fondamentalement étranger à la gauche du point de vue historique, à ce qu'il appelle, lui, le radicalisme populaire. Il pourrait être articulé à autre chose qu'au marché libre, qui, dans le thatchérisme, a été renvoyé à la notion de liberté. Or, la liberté, évidemment, c'est un concept extrêmement puissant. On s'efface tous devant le concept de liberté. Le libre choix, en tout cas, peut renvoyer à quelque chose comme la diversité croissante de la société, l'égalité des chances, l'incapacitation des individus à travers le concept, par exemple, de droit à choisir, que ce soit à l'hôpital ou dans ses choix privés, dans sa sexualité. Alors, tout ceci, on le voit, est présent à l'état de fragment en réalité, par exemple en France, y compris au niveau gouvernemental d'ailleurs, mais n'a pas fait l'objet d'une intégration un peu complexe politiquement. Alors, si j'en viens au populisme de droite plus spécifiquement, je vais le démarquer du thatchérisme et essayer de voir comment il évolue, en tout cas dans le modèle hallien. Chez Hall, le thatchérisme renvoie principalement à deux grands blocs idéologiques qui ont été collés, articulés ensemble. Le premier bloc est néolibéral, donc c'est la foi dans le libre marché, dans l'individualisme possessif, c'est l'ouverture à la mondialisation financière et pour partie dans la circulation des personnes. L'autre bloc, c'est le bloc réactionnaire, qui a une vision organique de la nation comme un tout, fonctionnel, intégré, nationalisme exacerbé. Cela repose aussi sur une vision de la famille hétérosexuelle nucléaire comme un horizon indépassable. Cela repose sur un étiquetage des immigrés et des étrangers comme étant subordonnés, en particulier dans un ordre colonial et postcolonial. Eh bien, ces deux blocs a priori assez opposés, puisque l'un valorise l'individu, la liberté, le marché, la circulation, l'autre, la subordination des étrangers, des immigrés, des non-blancs ou des pas-blancs, je renvoie à ce que disait Nassira tout à l'heure, à une vision organique de la nation comme un tout fermé. Ces deux blocs, en partie hétérogènes et opposés, ont fonctionné électoralement. Ils ont recueilli un consentement populaire, nous dit Hall, parce qu'ils ont permis à la fois de séduire des populations de classe moyenne et de classe supérieure qui aspiraient à une sortie du traditionnalisme étouffant, et de l'autre, à protéger idéologiquement des populations ouvrières et pour partie de classe moyenne qui attendaient à être protégées des transformations économiques potentiellement mortifères qui les attendaient, en les soudant autour notamment d'un rejet, voire d'un racisme à l'égard d'une partie de la population. Ok, les populismes de droite évoluent évidemment différemment, mais ils ont un air de famille au sens wittgensteinien. Ils sont fondés aujourd'hui sur un rejet de l'immigration, souvent par un développement du racisme plus ou moins revendiqué. Ils proposent un retour à la nation comme un référent fort. Ils ne vendent pas simplement une hétéronormativité, mais versent carrément dans l'hétérophobie, ou dans l'homophobie plutôt. Ils rejettent la mondialisation financière, la mondialisation aussi par le biais des flux migratoires. Ils en arrivent à rejeter des solutions collectives comme la vision intégrée supranationale européenne. Ils rejettent une technocratie dite bruxelloise qui ne serait pas démocratique. Ils peuvent exprimer une peur du chômage, une peur de la destruction des systèmes de santé, des protections liées au chômage. Ils peuvent traduire un sentiment d'impuissance, de minoration face à la visibilisation, la reconnaissance de minorités sexuelles, de races. Ils peuvent traduire des angoisses de blancs contre des non-blancs, de pauvres blancs contre des pauvres non-blancs. Ils traduisent une anxiété à l'égard de la pression à la baisse des salaires, de la réduction des services publics. Ils rejettent parfois, ils traduisent un rejet du fondamentalisme budgétaire, qui est un écho, une conséquence du néolibéralisme, y compris à l'échelle européenne, effectivement. Donc, on voit que ces populismes de droite se développent en relation avec le néolibéralisme thatchérien, ce qu'il est devenu depuis, mais qu'en même temps, ils sont une sorte de dislocation du thatchérisme. Les deux blocs historiquement constitués à travers le discours unifiant thatchérien semblent se séparer. Le bloc réactionnaire rejoint le camp des populistes de droite contre le néolibéralisme de marché, l'individualisme possessif, l'ouverture à la mondialisation. Le Brexit, de ce point de vue-là, est un événement profondément signifiant, puisqu'il représente une sorte de néolibéralisme qui se dévorerait lui-même, arrivé à son terme, puisque, au fond, la Grande-Bretagne a insufflé une sorte de néolibéralisme au fonctionnement même de l'Europe, repris par l'Allemagne récemment, et accepté par beaucoup, dont la France. Et puis finalement, ce néolibéralisme technocratique, ou soi-disant technocratique, a été refusé par une large partie de la population britannique, ou en tout cas par une petite majorité, pouvant conduire potentiellement à un isolement et une coupure de la Grande-Bretagne, des Royaumes-Unis, dans le capitalisme mondial. Alors ceci dit, je veux rassurer tout le monde sur le destin du néolibéralisme et du capitalisme, il ne vit que de crises. Donc en réalité, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je ne m'inquiète pas, moi, pour la City, en réalité, et sur ses capacités de se réinventer dans le champ de la finance. Ces populismes de droite sont, dit-on régulièrement, des problèmes de blancs, principalement âgés de 50 ans et plus, déclassés, c'est vrai, marginalisés, appauvris par la mondialisation ou se percevant comme tels. La réalité, évidemment, est un peu plus complexe et, hélas, plus riche. Il y a bien un enracinement dans une vision nostalgique. Il y a bien une peur de la précarisation qui touche aussi les classes moyennes. Mais il y a aussi une réinstrumentalisation aujourd'hui du magasin même des idées de la gauche, puisque la politique des identités a elle-même été reprise par les mouvements populistes de droite. On parle le langage des minorités désormais chez ceux-là même qui critiquent les minorités, les subalternes, telles que nous les concevons, nous, dans les cultural studies. Alors évidemment, dans les mouvements aussi homophobes, contre le mariage pour tous, on a vu ça à un degré extrêmement élevé en France. Donc on en arrive à une accusation généralisée qui, elle, n'est pas rationnelle au sens holien à l'égard des immigrants, de la gauche, des banques, de tout ce qui est en haut, les musulmans, l'État, le gouvernement, les médias, le président, le Premier ministre. Et il faudra un coup de baguette magique pour résoudre tout ça. Là, nous sommes dans une fuite, évidemment, la désignation de bouc émissaire dans une fuite qui on peut qualifier d'irrationnelle au sens où il n'y a plus de rationalisation des affects politiques qui puissent être partagés. Alors, l'objectif et l'horizon aujourd'hui, ce à quoi appelait Hall dans ses derniers textes, c'est bien de réarticuler une réponse. Mais pour cela, il va falloir produire un aggiornamento des pensées de gauche, y compris, nous a-t-il dit, au sein des cultural studies, très probablement. Alors, il a donné un certain nombre de pistes, je l'ai dit, de valeurs qui pourraient être récupérées, retravaillées au sein de la gauche. J'ai évoqué la liberté, bien sûr, mais même le référent national, dont on voit qu'il peut faire l'objet de réagencements de la part de certains acteurs de gauche, mais qui sont souvent des réagencements maladroits, ou qui fonctionne sur le principe du mime, simplement. On reprend à la droite les principaux traits, on lui emprunte ses modes de pensée. En tout cas, le référent national est quand même originellement, en particulier en France, quelque chose qui a été produit par la gauche. Donc il est tout à fait possible d'imaginer quelque chose d'alternatif. En tout cas, au terme de ce parcours évidemment rapide, je voudrais conclure avec Stuart Hall en disant que cette vision très sombre à laquelle nous sommes confrontés n'est peut-être pas totalement négative. Hall, dès les années 80, face au thatchérisme, nous disait que l'échec des gauches intellectuelles était avant tout un échec à rénover sa propre pensée. Cela nous plongeait dans une certaine incertitude. Il nous disait « ce n'est peut-être pas une conclusion si triste que cela peut le paraître au premier abord ». Il faut simplement enclencher les processus. Voilà. J'ai sûrement désespéré tout le monde.